Gloire à Dieu. Et nous savons que les circonstances auxquelles nous ne sommes pas à l'origine, bien sûr, c'est ce qui avait été prévu, nous constatons que c'est pas ça qui dérange notre attachement à Jésus-Christ et à Dieu notre Père. La salle, dans Dieu a permis que ce qui a été fait, on a, avec des bien-aimés qui étaient là, on a préparé ce lieu pour vous, malgré les conditions, bien sûr. Mais il fallait voir, il y avait de la poussière partout. Je pense pas que vous aurez pu vous asseoir. Peut-être certains sont allergiques à la poussière, mais comme des fourmis, les bien-aimés, de tout leur cœur, ils se sont mis à l'ouvrage. Pour que, je leur ai dit, faites-le, parce que ceux qui vont venir, ils viennent, c'est comme si on accueille Jésus à travers eux. Voyez, j'ai été loin. Jésus habite nos cœurs, oui ou non? Et vous êtes venus lui rendre un culte à Dieu et à Jésus-Christ. Alors j'ai dit à mes bien-aimés, travaillons pour nos frères et sœurs qui vont venir. Préparons les lieux. Aspirons, nettoyons, prenons des chiffons, nettoyons les fauteuils. Les fauteuils étaient un peu poussiéreux blancs. Avec une poussière blanche, pour ceux qui sont allergiques à la poussière, ça serait difficile d'être assis. Mais béni soit Dieu, il a fait en sorte que vous soyez bien confortablement assis. Vous n'avez pas vu ceux qui ont vent, mais c'est comme ça l'amour. C'est ça l'amour. Et nous sommes en train de vivre quelque chose de particulier, c'est l'amour en pratique. Vous voyez, on est obligé d'être discipliné, d'accepter qu'on nous dit « mettez-vous assis là, faites comme ça ». On est obligé de changer pour un petit peu de temps nos habitudes, n'est-ce pas ? Allô ? Amen. Voilà. Et derrière tout ça, je vais même aller plus loin, Dieu nous prépare pour le retour de Jésus. Parce que quand on est pris dans nos habitudes, on dit Jésus vient, on le dit avec nos bouches, mais au fond de nos cœurs, on dit bon, ça va se faire. Mais il faut être prêt, bien aimé, à toute éventualité. Le Seigneur ne nous dit pas, quand le voleur vient, doit venir dérober dans nos maisons, il ne nous avertit pas. Je n'ai jamais vu un voleur dire, allô, je passerai vers 14h30 ou vers 2h du matin. Il ne dit pas ça. Ou mon frère Giovanni, je vais venir vers 1h. Giovanni l'attendra avec le Kalachnikov. Non, il attendra bien avec un bâton. Bien sûr, pour lui faire comprendre, il est en territoire occupé, propriété privée. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais Jésus veut nous faire par là qu'il faut être prêt à toute éventualité. Que nous soyons ici, que nous soyons ailleurs, dans le supermarché, que nous soyons en vacances, au repos, il faut être prêt à toute éventualité. D'accord ? Faites comme si Jésus allait venir à la seconde qui suit. Imaginez-vous que Jésus vient dans les 5 minutes qui suivent là. S'il vous trouve occupé, non mais vous rigolez, je suis sérieux, s'il vous trouve préoccupé à vos affaires, ça va être difficile, hein ? Alors il faut justement vivre dans cet état d'esprit. C'est comme si vous êtes dans un pays en guerre et dès que vous entendez les sirènes, ça veut dire qu'il faut aller dans les abris. Si vous êtes là, vous dites, bon, il y a la sirène, vous pouvez vous manger une bombe et être déchiqueté. Mais dès que vous entendez la sirène, c'est le signal qu'il faut aller se cacher. Eh bien, c'est ça, bien-aimé. Nous sommes passagers pèlerins sur la terre. Nous devons être en alerte maximum jour et nuit. Et Jésus le dit, ne pas nous laisser endormir. Veillez au manger, aux excès. Du manger et du boire. Qui fait que nous pouvons avoir, nous laisser aller. Et puis, on dit, ah, je veux bien manger. Ah, qu'est-ce que... Et des fois, je dis, mais Seigneur, si tu viens en période de Noël, tu as acheté ton foie gras, ton caviar, tes œufs de limpe, ton saumon, tu es bien installé, tu dis, je vais manger. Et l'enlèvement arrive, tu n'as même pas le temps de manger ce que tu as. Pourquoi ? Parce que il y a un repas céleste qui nous attend dans le ciel. Allô ? Il y a un repas céleste qui nous attend dans le ciel. Nous serons attablés. Nous avons notre petite carte qui est là à notre place. Tu n'iras pas t'asseoir où tu veux. Tu iras t'asseoir là où le Seigneur dira. C'est pour ça qu'il prend un exemple. Si tu es invité et tu vas à la première place, le chef arrive, le responsable de la maison, il dit, qu'est-ce que tu fais là toi? Lève-toi et va te mettre au fond. Ça veut dire que chacun, le Seigneur prépare, comme il l'a dit, je m'en vais, vous préparez quoi? Vous êtes assis à une place ce soir. Eh bien, veillez bien que vous êtes à la bonne place. Je pense que vous l'êtes, parce que d'habitude, vous mettez votre foulard, vous dites, je vais retrouver ma petite place, c'est fini ça. Vous êtes à la place que Dieu veut que vous soyez ce soir. Et même si c'est les bien-aimés qui vous ont placé, ils vous ont placé là où Dieu voulait que vous soyez ce soir. D'accord? Bon, mais alors dans le ciel, Jésus est en train de nous préparer une place à chacun, chacune. Peut-être qu'il te mettra à côté d'une sœur ou d'un frère que tu ne supportais pas dans l'église. Et tu vois son nom, tu dis « Ah non, pas... » mais dans le ciel tu ne peux plus dire non. C'est Jésus qui te met à cette place-là. Mais comme ton cœur aura été changé, alléluia! Parce que dans le ciel, si tu montres avec un cœur en disant « Je ne veux pas », c'est que tu n'es pas régénéré. Et dans le ciel, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas régénérées qui y rentrent. Il n'y a que ceux, mes bien-aimés, qui sont au fond de la salle, que je regarde, il n'y a que ceux dont le cœur a été transformé et régénéré. D'ailleurs, l'Écriture nous dit qu'on sera transformé en un... Alors faites-moi un clin d'œil. En un clin d'œil, nous serons transformés. Alors le Seigneur est en train de nous préparer une demeure, une place. C'est merveilleux. Il ne nous a pas oublié, le Seigneur Jésus. Il est en train de préparer la place pour chacun d'entre nous. Et comme il fait les choses parfaitement bien, c'est pas quelqu'un qui laisse les choses à demi. Vous savez, il commence, il ne termine pas. Ça, c'est nous. Mais lui, tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et je peux vous dire, quand il prépare une place pour telle sœur, tel frère, il prend le temps de le faire comme s'il le faisait pour lui. Puisque c'est lui qui nous a dit « Tu aimeras ton prochain ?» comme toi-même. Alors il fait les choses tellement parfaitement bien pour que quand tu y seras, tu seras comme dans des chaussures à tes pieds. Si tu fais du 42 et demi, ça sera du 42 et demi. Ça sera pas du 40 parce que tu auras les pieds comme ça. Tu seras pas à l'aise. Mais il va faire les choses tellement bien pour que tu sois et que nous soyons tous à l'aise. Parce que dans le ciel, nous passerons notre temps non pas à bâiller, à dormir, mais il n'y a pas de nuit ni de jour là-haut. On passera notre temps à vivre dans la gloire de Dieu. Ce que nos parents Adam et Ève ont été privés, Dieu nous l'a redonné en Christ. Alléluia! Et nous allons vivre éternellement dans la gloire, frères et sœurs. Et certains pensent que dans le ciel, ils imaginent le ciel. Mais arrêtez d'imaginer, prenez les Écritures. Et allez au ciel à travers la Bible. N'allez pas au ciel à travers les témoignages de certaines personnes, parce que c'est eux qui l'ont peut-être vécu. Je dis bien peut-être. Mais vous, allez dans le ciel à travers les Écritures, vous verrez combien c'est extraordinaire. Et si Dieu vous fait la grâce, comme il l'a fait à un certain homme de Dieu, qu'on appelait Saul de Tarse, et qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, cet homme-là a eu une expérience. Il dit, 14 ans en arrière, je connais un homme, il parle comme dans les films, vous voyez, à la troisième personne. Il ne dit pas « moi, Paul », parce que quand quelqu'un expérimente la grâce de Dieu, quand Dieu lui permet de voir de telles choses dans le ciel, il est obligé de parler, non pas en disant « je ». Quand tu vois les choses du ciel, tu te fais tout petit. Parce qu'il faut qu'il croisse et que toi, tu diminues. Vous comprenez? Quand les gens vont au ciel et qu'ils disent, moi j'ai, je mets trois points d'interrogation et je mets un bémol sur ces choses-là. Ça, c'est moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais quand quelqu'un, Dieu lui fait la grâce d'aller au ciel, je peux vous dire quand il revient, il parle peu, hein. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, Dieu lui a fait la grâce. Il dit, je connais un homme qui a été ravi au troisième ciel et qui a vu des choses qu'il ne peut même pas en parler. Tellement que ces choses étaient glorieuses, tellement qu'il a vu des choses glorieuses. Pour ne pas s'enorgueillir, frères et sœurs, je, moi. Il dit que il y a eu un ange de Satan qui était là pour lui souffleter afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Mais pourquoi ? Parce que Paul reconnaissait qu'il était un vase d'argile en qui Dieu lui avait fait la grâce, comme vous et moi, à faire habiter en lui un trésor extraordinaire. Et ce trésor, c'est le Saint-Esprit. Ce trésor, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus habite nos cœurs ce soir. C'est pour cela qu'il faut le louer, le glorifier. C'est une grâce. Pourquoi cela, frères et sœurs ? Parce que Dieu ne veut pas que l'homme tire une gloire dans ce qu'il fait. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu veut briser le vase que tu es, mon frère, ma sœur. Il veut le façonner à sa guise. Et ce qu'il a mis en toi, pourquoi tu cherches à le faire valoir comme si ça venait de toi ? Ça ne vient pas de toi. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un vase. Et voyez bien que ce Dieu Tout-Puissant a choisi un vase d'argile. Il aurait pu choisir une matière beaucoup plus valorisante. Il parle de nous comme étant des vases d'argile pour que nous soyons conscients de notre fragilité. Mais pour aussi que nous soyons conscients de sa grandeur, de sa puissance, et que toujours nous puissions rester humbles à nos propres yeux, mais pour que toujours nous puissions lui donner la gloire. À lui soit la gloire. Non pas à nous, mais à lui soit la gloire ce soir. À Jésus-Christ soit l'honneur et la gloire. Béni soit Dieu, frères et sœurs, ce soir. Parce que nous sommes des vases d'argile. Et Dieu nous a fait la bonté de faire de nous un lieu où il a mis un trésor. Il a fait habiter en nous le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Béni soit Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que ce travail-là, il travaille l'argile que nous sommes. Il travaille ce vase. Et il a dit à Jérémie, le prophète, son serviteur, il aurait pu l'instruire en lui disant, Jérémie, je te parle du potier, je te parle du vase, de l'argile. Pas la peine de descendre dans la maison du potier. Mais il lui a dit, descends dans la maison du potier. Et là, je vais t'instruire. Voyez ça, frères et sœurs. C'est que Dieu voulait l'emmener à du concret. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut changer. Il veut qu'on arrête d'être des chrétiens virtuels, qui parlent des autres, des témoignages des autres. Dieu veut nous emmener à faire de belles expériences avec lui. Pour que quand nous parlions aux gens, les gens, ils sentent que c'est du vécu. Ils sentent pas que c'est du répété, du réchauffé, de la paille remâchée, mâchée, remâchée. Il veut que ça soit une expérience vivante et vécue. Alors mon frère, ma sœur, je souhaite pour toi que tu expérimentes les choses de Dieu avec Dieu. Quoi que tu passes par le feu, Dieu éprouve le vase que tu es. Ne le vois pas comme si Dieu était méchant. Si Dieu le permet, que ce vase que tu es soit éprouvé, il a ses raisons. Les raisons que tu ne sais pas, toi, que lui sait. Parce qu'il est le divin potier. Et s'il permet que le vase soit éprouvé, béni soit son nom. Pour quelle raison ? Parce qu'il fait ce qu'il veut avec l'argile. Et quand il commence à travailler l'argile, mes frères et sœurs, il va choisir la qualité de l'argile qu'il va travailler. Il va enlever les aspérités, les petits cailloux qui peuvent blesser les mains. Il va l'humidifier à un taux au point que l'argile soit tellement humide qu'il puisse travailler la pâte. Il va rendre cette argile malléable, comme du beurre dans sa main. Et une fois que l'argile va atteindre cette dimension-là, il prend la pâte, il le met sur le tour. Et là, il mouille ses mains et il commence à travailler la pâte. Une pâte qui n'avait pas de forme, qu'on pouvait mettre dehors la poubelle, il commence à donner la forme que lui veut à cette pâte. Pour que cette pâte devienne un vase. Et un vase qui sera utile, frères et sœurs, à de bonnes œuvres qu'il aura préparées d'avance. Alléluia! Et c'est le travail qu'il fait. Et vous savez, lors d'un repas, souvent on met sur la table des vases avec de l'eau bien fraîche. Et je peux vous dire, celui qui a soif, quand il mange, il se sert de l'eau, hein? Parce que si le vase n'est pas là, il n'y a pas d'eau. Alors vous voyez bien que l'utilité du vase que tu es, le Seigneur veut remplir nos cœurs de sa parole. Il veut remplir nos cœurs de sa parole. Pourquoi ? Pour que nous laissions le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, venir chercher dans nos cœurs les paroles qu'il faut et pour les donner à ceux qui veulent l'entendre. Et ce seront des paroles qui tomberont à bon escient, qui vont s'emboîter pour le besoin de celle et celui qui l'entendent ce soir. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alors le divin potier, il travaille l'argile qu'on est. Et quelquefois, il ne nous dit rien. Il ne nous dit pas la forme qu'il veut donner au vase qu'on est. Il ne nous dit même pas à quelle utilité, où il mettra ce vase, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il fera. Il n'a pas de compte à nous rendre. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous laisser façonner. C'est d'être malléable entre ses mains. De ne pas manifester de la rébellion, de l'entêtement. Non, je ne veux pas, ça fait mal. Non, laissez-vous faire. Seigneur, rends-moi malléable entre tes mains. Aide-moi à te laisser façonner. Aide-moi à te laisser agir. Il y a encore des choses que peut-être toi, tu ne vois pas dans l'argile que tu es. Mais lui, il le voit. C'est le divin potier. Alors il travaille. Il va travailler la pâte à l'extérieur comme à l'intérieur. Ses deux mains travaillent. Une main à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Le cœur, à l'intérieur, il change. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il change le cœur pour mettre des bonnes choses dans le cœur. Et à l'extérieur, il fait que tu ne sois pas un peu orgueilleux, provoquant. Vous voyez, il fait en sorte que tu sois sobre, humble. Tu es là, comme Jésus, faisait pas de bruit. Il criait pas sur les toits. Quand il passait, c'était sa présence et la présence de Dieu en lui qui attirait les gens. Frères et sœurs, la Bible nous parle que nous sommes le parfum de Christ. Quand vous passez à côté de quelqu'un, vous pouvez dire, tiens, ça c'est du Christian Dior. Ça, c'est du Gucci. Ça, c'est du Chanel. Pourquoi ? Parce que vous avez le nez. Eh bien, quand un chrétien s'assoit à côté de toi ce soir, ne respire pas son parfum qu'il a acheté à Monoprix. Respire le parfum de Jésus qui est sur lui, parce qu'il porte la bonne odeur de Christ. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous sommes le parfum de Christ. Nous apportons la bonne odeur de Christ. Autrefois, c'était une odeur de mort à cause du péché, à cause de la condamnation qui était sur nos vies. On sentait la mort. Nous étions déjà morts, puisque l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous étiez morts autrefois. Mais maintenant, Christ, nous sommes vivants. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures, frères et sœurs. Alléluia! Merci Seigneur. Merci au Seigneur Jésus. Et bien aimé, on va avancer encore un peu. Vous savez que Moïse, le serviteur de Dieu, Dieu a été le chercher dans le désert. Il faisait paître le troupeau de son beau-frère, de son beau-père, pardon, Jéthro. Et ce jour-là, comme il le faisait habituellement, mais ce jour-là, l'Écriture prend le soin de nous dire qu'il a été le faire à un endroit différent. Et c'est à cet endroit précis que le Seigneur se manifeste à lui. Vous voyez bien que quand nous laissons Dieu nous conduire, changer nos habitudes, c'est là que nous pouvons découvrir une manifestation, une révélation encore à nouveau de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons Dieu changer nos habitudes, notre façon de faire, laissons le Seigneur le faire, changer ces choses. Parce qu'il sait, que nous sommes de nature à nous habituer, à nous conformer, à être dans les trains-trains quotidiens. Il le sait ça. Deux Corinthiens. Dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, et vous savez que le vase n'est rien, mais c'est ce qui habite en lui qui lui donne de la valeur. Vous avez vu ça, hein ? En réalité, la fragilité du vase qu'on est, on n'est rien, on est poussière. Mais ce qui donne de la valeur à ce vase, c'est ce qui est dedans. C'est Christ en nous qui nous donne de la valeur. Vous enlevez Jésus de votre vie, vous n'avez plus aucune valeur. Vous ne faites plus le poids dans la balance de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui fait le poids dans la balance de Dieu quand Dieu nous met sur sa balance. Quand Jésus est dans notre cœur, vraiment dans notre cœur, nous faisons le poids. Vous enlevez Jésus, on n'est rien du tout. Alors gardez-le dans votre cœur. Gardez ce trésor précieusement. Et ne laissez pas l'adversaire venir le voler, parce que c'est un voleur. Oui ou non ? Et vous savez, le vase, Moïse était un vase. On peut prendre cet exemple. C'était un vase. Au début, c'était un vase dans lequel la fille de Pharaon, c'est bien ça, hein, comme il a été adopté par la fille de Pharaon, et la fille de Pharaon pensait que Moïse allait succéder à son papa, qui était sur le trône, bien sûr. Alors, elle a préparé Moïse comme étant le successeur, le futur roi d'Égypte. Vous êtes avec moi ? Alors, vous voyez bien que la fille de Pharaon a éduqué. Alors, la fille de Pharaon, considérons que Moïse est un vase. Sa maman l'a caché pendant 3 mois pour éviter que le pharaon puisse le tuer, le supprimer. Et au bout de 3 mois, la maman ne pouvait plus le garder, le petit. Alors elle l'a mis, comme vous le savez, dans un panier en osier. Elle a bien enduit intérieur, extérieur, et elle l'a mis sur le Nil et a dit, bon voilà, bien qu'il y a des crocodiles, mais elle a eu foi. C'est un acte de foi qu'elle a fait. Et justement, la fille de Pharaon était là avec ses servantes. Elle se relaxait, elle se mouillait les pieds. Et puis, elle entend pleurer. Elle s'approche, elle voit ce panier. Et elle voit un beau bébé. Mais un bébé magnifiquement beau. Quelle beauté. Ça va ? Vous attendez une blague, hein ? Je ne ferai pas de blague ce soir. Promis. Un beau bébé. Tout de suite, son cœur a été... Elle a dit, je veux plus d'enfants, j'en veux pas. J'en avais pas, j'en veux pas. J'en ai un. Elle a adopté. Et les circonstances font que c'est la mère de Moïse qui a allaité, non pas une autre maman avec un autre lait, mais c'est le lait maternel. C'est bien ça, frères et sœurs. Hein? Bon. De là, Moïse grandit à la cour de Pharaon. Ce que le Pharaon mangeait, Moïse le mangeait. Ce qu'il buvait, La manière qu'il était habillé, Moïse était aussi habillé. Les chaussures, Moïse était au petit soin, merci. Je pourrais dire, il vivait dans la bourgeoisie. Il ne manquait pas à manger ni à boire pendant que ses frères israélites étaient en train de travailler la boue, la paille, pour faire des briques. Lui, il était au petit soin. Il était là parce que les circonstances ont fait ainsi. Dieu a voulu que ça soit comme ça, frères et sœurs. Alors quand Moïse, la Bible nous dit qu'il a grandi à la cour de Pharaon, avec une maman adoptive qui lui a enseigné, inculqué les rudiments, les règles, les principes égyptiennes. Vous me suivez ? Moïse a grandi avec ça. Alors vous comprenez bien que ce vase a été formaté à la manière du monde. Mais pour que ce même vase puisse être utile, il a fallu ce que Jérémie... vase que le potier est en train de travailler échappa de sa main, qui veut dire qu'il tomba et qui s'est brisé. Eh bien, frères et sœurs, là où je veux en venir, c'est que pour être efficacement utile entre les mains de Dieu, il faut passer par le... J'ai pas entendu. Le brisement. Que vous le vouliez ou non, si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, vous êtes obligé de passer par le brisement. Alors Moïse, comme Dieu avait un plan sur sa vie, comme Dieu a un plan sur ta vie, tu seras obligé de passer par le brisement et tu n'auras pas ton mot à dire, c'est le potier qui décide ainsi. Ton Père Céleste décide que tu passes par le brisement. Et Moïse, passant par le brisement, avant d'être utile, ça s'est passé comment ? La Bible nous dit qu'il a vu que les Égyptiens malmenaient un de ses frères, puisque, bon, la Bible nous dit un de ses frères, un Hébreu. Il a pris la défense de l'Hébreu. Il a attrapé l'Égyptien. Il lui a fait un clé de bras. Non, pas ça, c'est les policiers qui font ça. Il l'a tué, on va aller directement au but. Il a tué l'Égyptien. Et comme c'est monté aux oreilles de la hiérarchie, il a pris peur. Tout fils adoptif qu'il était, il a pris peur. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la fuite et il est parti dans le désert. Voilà le brisement commence. Frères et sœurs, Dieu a brisé Moïse. Moïse a connu le désert avant de connaître un désert différent avec le peuple juif. Vous vous souvenez ? Il a été brisé et il a connu le désert une première fois et il l'a connu une deuxième fois avec les juifs pendant 40 ans. Il a été brisé, Moïse. Et brisé pourquoi ? Il a été brisé parce que tout ce que Madame, la fille de Pharaon, l'avait inculqué, les principes de l'Égypte, il fallait qu'il soit dépouillé de ça. Dieu ne se servira jamais de toutes les études que tu aies pu faire, les bacs plus 10. Dieu n'a pas besoin de ça, mon frère, ma sœur. Il est l'intelligence même. Il est la sagesse même. Il va choisir les choses faibles pour confondre les forts. Il va briser ta vie. Si tu t'appuies sur ton orgueil, ta propre sagesse, il va briser ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et il ne te demande pas ton avis. Il le fait parce que c'est comme ça. Il n'a pas demandé à Moïse son avis. Il n'a pas demandé à David son avis. Il n'a pas demandé à Paul son avis. Il a fait. Et je peux vous dire, derrière tout cela, ces hommes, tout ce qu'ils ont pu faire, la mer qui s'est ouverte, les bâtons changés en serpents. Enfin bref, tous les miracles y a pu être opérés, que ce soit par Moïse et tous les exploits que David a pu faire et que Paul a pu faire après, c'est parce qu'ils ont été brisés avant. Pour quelle raison, bien-aimés ? Parce que quand Dieu nous brise, il nous fait devenir petits à nos yeux. Pourquoi ? Pour que quand il se passera quelque chose, un miracle, il nous utilise dans sa bonté pour faire un bien quelconque, on ne va pas tirer la couverture vers nous, on va lui donner toute la gloire. Voilà pourquoi c'est utile et c'est important d'être brisé par lui. Alors Moïse, ayant été brisé, le brisement commence par la fuite, parce qu'il a tué quelqu'un, frères et sœurs. Il a commis un meurtre. Et le brisement commence par là. Alors, voyez-vous, il aurait pu dire, « Seigneur, je ne suis qu'un vaurien, je ne suis qu'un meurtrier. Comment peux-tu utiliser un homme, quelqu'un qui est si pourri, si pécheur que moi ?» Dieu dit justement, « C'est ce que j'aime. Parce que je vais me glorifier dans tes faiblesses. » C'est merveilleux, hein? Le langage de Dieu, le choix de Dieu est différent. Nous, on va dire, ah, il est beau. Ah, il se présente bien, il prie bien, il chante bien, et ceci, cela. Dieu dit, oui, oui. Mais ça ne m'intéresse pas, les gens parfaits. J'utilise ce qui est imparfait pour travailler leur vie et pour faire en sorte que si demain, je les utilise pour une œuvre puissante, ils ne puissent pas tirer la couverture vers eux, mais ils puissent me donner toute la gloire. Vous voyez, hein, la sagesse de Dieu. Et le monde ne comprend pas cette façon d'agir de Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un petit. Amos a pu dire, c'est derrière le troupeau que tu m'as choisi, que tu m'as pris. David pouvait dire aussi, tu m'as pris derrière le troupeau. Il n'a pas dit, tu m'as pris, j'étais bien dans le monde, j'avais un poste, j'étais directrice, directeur. Non, non, j'étais rien. Et tu as fait de moi chef de ton peuple, prophète de l'Éternel. Frères et sœurs, tant que, je le répète, nous resterons petits à nos yeux, Dieu pourra faire quelque chose. Et souvent, les enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi ils passent par la maladie, par l'épreuve, par la souffrance. Ils ne voient pas derrière ça une main visible qui est la main divine de Dieu, du divin potier qui travaille et qui permet cela dans leur vie, dans nos vies. Pourquoi ? Pour amener son œuvre à une œuvre parfaite. Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas le potier qui a du prix, c'est celui qui utilise le potier. Ce n'est pas le vase qui a du prix, c'est celui qui utilise le vase. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui fait une peinture, un peintre, qu'est-ce qui va donner de la valeur à ce qu'il va faire ? Est-ce que c'est la qualité ? Est-ce que c'est le stylo ? Ce stylo-là, même s'il n'a pas de marque, il va m'écrire quelque chose. C'est pas la marque qui va donner à mon stylo de la valeur pour, dans l'écriture que je vais faire. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand le peintre utilise le pinceau, c'est pas le pinceau qui est important, mais c'est celui qui l'utilise. Vous m'avez compris, hein? Et si ce soir vous n'avez pas compris là, vous allez le comprendre ce soir en dormant, avant de dormir, ça va vous revenir. C'est celui qui utilise le pinceau qui donne, qui va donner de la valeur à ce qui va être dit et fait, du moins, est-ce qui va être fait. Et les gens vont regarder le tableau et vont dire, ah, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Et le monsieur, on va lui poser, monsieur le peintre, comment vous avez fait ça? Il va dire, mais avec quel instrument? Il va sortir des pinceaux, mes amis, mais des vieux pinceaux tout cassés. Et le pinceau tout cassé a fait un dessin magnifique. Pourquoi? C'est celui qui l'utilise. Alors quand vous laisserez Dieu utiliser le vase que vous êtes, ça va donner de la valeur à ce que vous faites. Et vous arrêterez de faire des œuvres que vous voulez faire. Mais vous le laisserez lui faire ce qu'il avait prévu pour votre vie. Vous m'avez compris, frères et sœurs. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres, mais des bonnes œuvres, afin que nous les accomplissions. Frères et sœurs, rentrons dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et Dieu avait préparé un plan pour Moïse. Il a brisé cet homme. Et quand Moïse, à nouveau, une fois que le Seigneur s'est révélé à lui, Moïse dit ceci. Dieu lui dit, Moïse, je vais t'envoyer vers Pharaon. C'est-à-dire, je vais te renvoyer dans le pays où tu as tué quelqu'un. Il faut le faire quand même, hein. Et tu vas dire ceci, cela au Pharaon. Vous savez ce que Moïse dit à Dieu ? Il dit à Dieu, tu sais, Seigneur, j'ai été élevé à la cour de Pharaon, je sais parler l'Égyptien, je sais parler, je connais le... Non, non, il n'a pas dit ça à Dieu. Il a dit à Dieu, tu sais, j'ai pas la parole facile. Ça veut dire que derrière tout ça, Dieu, il faisait comprendre à Dieu qu'il était redevenu comme un enfant. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, comme des enfants. Dieu veut faire de nous des enfants. Des enfants qui sont tellement dépassés par ce que Dieu veut faire, qui n'arrivent pas en disant « Ah, je suis sûr de ce qu'il veut faire !» Ils arrivent comme ça. Non, non. Ils arrivent et disent « Seigneur, tu sais, tu veux te servir de moi, mais je ne sais pas trop comment faire. Hein. Je suis un peu gauche. Hein. Tu sais, je zozote. Hein. Je suis bègle, je bégaye. Voyez ? Dieu dit oui, justement. C'est parce que tu zozotes, tu bégayes, je veux m'utiliser. Je veux t'utiliser. Et Moïse a dit à Dieu, j'ai perdu tout ce que je savais, la façon de parler, l'Égyptien que je parlais, etc. Et quand je lisais ce texte, là par contre je vais vous faire rire. Vous savez, l'Antillais que nous sommes, que vous êtes, quand tu pars, tu quittes ton pays, ton île, et tu viens en France, tu arrives, là-bas tu as parlé que le créole, tu ne prononçais pas les R. Bonjour. Et tu arrives en France, on te dit, monsieur, il faut prononcer les R. Alors tu dis bonjour, tu brodes. Et il s'avère que quand tu dois retourner au pays, tu rencontres les locaux, enfin les, comment on dit, c'est bien ça. Alors tu rencontres les copains d'avant, alors tu arrives, tu dis bonjour. Alors on dit tu brodes, parce que tu reviens de là-bas, tu brodes. En gros, tu fais style, tu viens du métropole, je brode. Là, vous pouvez rigoler, enfin, je dis pas, on est ensemble. Alors, il dit, ah, parce que tu es là-bas, alors il revient, il brode. Mais Moïse, quand il est revenu vers ses frères, est-ce qu'il a brodé ? Il n'a pas brodé. Il a dit, je ne sais pas parler. Du moins, je n'ai pas la parole facile. Et Dieu lui a dit, écoute, puisque tu reconnais qu'il y a une faiblesse chez toi, je vais surfer, je vais exploiter cette faiblesse pour glorifier mon nom. Dieu lui dit, puisque tu n'as pas la parole facile, je vais utiliser quelque chose que tu as dans les mains. Tu as quoi dans la main ? Un bâton. Il lui a dit, tu vois ce bâton ? Jette-le par terre. Et quand Moïse jeta le bâton par terre, le bâton est devenu un serpent. Et Dieu lui a dit, quand tu iras voir Pharaon, tu feras la même chose et tu verras. Moïse, la parole pas facile, alors il s'est dit, je vais m'appuyer sur un miracle de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on reconnaisse nos incapacités, nos faiblesses, et que nous nous appuyons sur lui. Vous voyez la leçon, frères et sœurs. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta sagesse. Appuie-toi sur lui. Prends ton appui sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole. Et quand il a jeté le bâton est devenu un serpent. Alors Pharaon, voyant cela, il a téléphoné à ses magiciens en leur disant « Rappelez-vous tout de suite, j'ai besoin de vous. » Alors ils sont venus, les mages, les magiciens, les gens qui pratiquaient la sorcellerie, Et ils ont vu cela. Eux aussi avaient des bâtons. Alors ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Vous voyez la puissance de Satan, hein ? Il peut faire la même chose que Dieu, sauf que c'est la fin de la chose qui est importante. Regardez la fin de l'histoire. Alors ils ont jeté leurs bâtons qui sont devenus aussi des serpents. Alors je me mets à la place de Moïse, hein. Je dis, mais comment Moïse est resté là ? Et d'un coup, vous voyez le serpent du bâton de Moïse a commencé à engloutir. Alléluia ! Le serpent de Moïse a commencé à engloutir les serpents des mages. C'est pour nous montrer que ce qui est de Dieu, Dieu est supérieur aux puissances des ténèbres. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il les a vaincues à la croix du calvaire. Quand on croit qu'ils ont le dessus sur toi, ce n'est pas vrai. C'est la fin de la chose qui vaut mieux que ce commencement. Amen, mon frère et soeur, mon frère et ma soeur. Ça veut dire que tu passes par l'épreuve. Tu es éprouvé. C'est la fin qui compte. Si tu sors de l'épreuve, toujours en restant intact dans ta foi en Dieu et en Jésus-Christ, alors tu sortiras victorieux. L'apôtre Paul a pu dire à la fin de ses jours, j'ai gardé la foi. Pourtant, il était dans une prison, dans le noir, délaissé, abandonné. Ça aurait pu l'emmener à perdre la foi. Un homme qui a été brisé par Dieu. Il ne comprenait pas, mais il savait que cette épreuve-là, c'était Dieu qui le permettait. Mais malgré cela, il nous fait savoir que dans l'épreuve, il est resté fermement attaché à Dieu et à Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, c'est ce que tu dois faire. Quoi que tu puisses vivre, quel que soit le chemin par où tu passes, c'est la fin de l'histoire qui est importante. Tu peux regarder les films. Si l'acteur principal meurt à la fin, tu es triste. Et pourtant, tu n'es pas acteur. Tellement que tu étais dans le film. Mais quand l'acteur sort victorieux, ça te fait quelque chose. Eh bien, c'est ça la fin de l'histoire. Si tu sors de cette épreuve en étant victorieux, tu as gardé la confiance en Dieu et en Jésus-Christ, c'est ça le plus important. Gloire à Dieu. Alors, j'ai dit, 2 Corinthiens, chapitre, je l'ai pas dit, chapitre 4, ça y est. Ça va mes frères? Ça va? Ça va au fond de la salle? Faites-moi un coucou avec la main, merci. Merci mes bien-aimés. En fait, ils sont plus à l'aise derrière parce qu'ils n'ont pas de choses sur la tête. C'est un acte de foi qu'on fait, hein. D'être là avec un échafaudage sur la tête. Il faut vraiment que le monsieur qui a mis les écrous, qu'il n'ait pas oublié un écrou. Non mais vous rigolez, s'il en a oublié un, je vous fais peur là. S'il en a oublié un, il suffit qu'on chante, on commence à danser comme ça, tout s'écroule. Non, on est en sécurité. Vous ne les voyez pas les anges? Il y en a un ici dans chaque coin de la salle qui soutient. Et il dit Amen, Alléluia. C'est qu'ils ont... Non, mais je rigole. 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 7. Nous portons quoi ? Ce trésor où ? Dans des vases. Voyez ? La fragilité de ces vases, c'est des vases de terre. C'est pas des vases en fer. Non, non, c'est des vases de terre. Afin que cette grande puissance qui habite en nous, hein, soit attribuée à Dieu et non... Vous voyez ? Dieu a fait habiter ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance, quand elle se manifeste, pour qu'on ne puisse pas tirer la couverture, quand la puissance de Dieu se manifeste, Dieu te permet de donner une parole, une révélation, une exhortation, quelque chose, une guérison, une action qui vient de lui, de cette puissance qu'il a fait habiter en toi. Il te dit, rappelle-toi que tu n'es qu'un vase de terre. pour que tu ne puisses pas tirer une couverture, parce que ce vase de terre, il peut le briser. Il peut briser le vase. Et il dit, pour quelle raison ? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez ? C'est ce que Dieu fait. Et dans Romains chapitre 9, nous voyons encore là, à partir du verset 21, toujours par rapport au vase, le verset 20, il est dit ceci, « Ô homme, toi, j'entends les pages qui tournent, je vous attends. Ça y est, vous avez trouvé ? On peut y aller. » C'est important de suivre, hein, parce que c'est la parole de Dieu. Hein. Il dit, l'apôtre Paul dit, « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Et c'est vrai. Qui sommes-nous pour dire à Dieu, « Non, ce que tu fais, ça ne me plaît pas, discuter avec Dieu. » Non. Le vase que nous sommes, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à la parole. Mais quand Dieu travaille, on se tait. Quand il œuvre dans notre vie, on se tait. S'il nous fait allonger sur un lit d'hôpital, on se tait. Et ceux qui doivent venir voir le vase que tu es, qui est éprouvé, doivent aussi mesurer leurs paroles. Parce qu'ils risquent aussi de ne pas ressortir de l'hôpital. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors il est dit ceci, je le lis. « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile que nous sommes, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ? C'est tout à fait le langage contraire de David qui disait à l'Éternel, je suis une créature si merveilleuse. Voyez ? Et là, c'est une créature qui conteste, qui dit, ah, pourquoi je suis fort ? Pourquoi je ne suis pas comme ça ? Pourquoi j'ai... Vous savez, quand on est mal dans sa peau, on essaye de ressembler à quelqu'un qui est peut-être parfait à vos yeux, on ne se contente pas de ce qu'on est. Mais le vase que tu es, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Il a permis que tu aies un nez un peu plus gros que l'autre, les oreilles un peu plus écartées que la norme. C'est lui qui t'a fait comme ça. Alors quand tu te regardes dans le miroir, dis, parle-toi en disant « qu'est-ce que tu es beau ?» Mais ne dis pas « qu'est-ce que tu es laid ?» De quel droit tu as le droit de dire que tu es laid ? Tu te parles à toi comme si tu disais à celui qui t'a créé « pourquoi tu m'as fait comme ça ?» Non, mes frères et sœurs. Dieu t'a fait ainsi pour un but bien précis. Tu n'es pas un numéro. Tu es venu au monde comme tu es parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et il te l'expliquera quand tu seras là-haut dans le ciel. Si tu as des questions à lui poser, ça sera dans le ciel. Il lui dit, le potier au verset 21, vous êtes avec moi, n'est-il pas maître de... Oui, c'est une question que le Seigneur nous pose. Est-ce que le potier n'est pas maître de l'argile ? Bien sûr. Oui, il est maître de l'argile. C'est comme le charpentier... Il est maître du bois. Il fera du bois qui est informe, un meuble, une chaise, quelque chose qui est magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a décidé de donner cette forme. Pareil pour le potier. Le vase, le potier donnera au vase la forme que lui veut. Alors il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, quoi ? Un vase d'honneur. Alléluia! Dieu est capable de faire de toi un vase d'argile sans valeur. Il est capable de remplir ce vase du Saint-Esprit et de faire de toi et de t'emmener à tel endroit pour que quand tu ouvres la bouche, c'est pas toi, mais tu es sous l'onction. Pour que ce qui sort de ta bouche puisse toucher les cœurs. Pour que ta main, quand il touche quelqu'un qui est malade, la personne soit guérie parce que le Saint-Esprit fait son œuvre. Et ce n'est pas toi qui le fais. Trop souvent, l'homme et certains pasteurs tirent la gloire pour eux. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Oh, merci pasteur, merci mon père. Ils appellent même les pasteurs papa. Et Jésus a dit, n'appelez personne père. On vénère, on élève l'homme, mais on doit glorifier Dieu et Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs. Jésus fait un miracle, il utilise quelqu'un ici, la personne doit donner toute la gloire à Dieu et à Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom nous donnons la gloire. Pourquoi ? Parce que le pasteur, le frère que Dieu utilisera, n'est qu'un vase, n'est qu'un instrument. Comment le vase va tirer une gloire en disant « Ah, c'est moi, c'est grâce à moi ». Non, non, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à celui qui t'a façonné et qui a mis en toi ce trésor. On s'est compris ce soir, frères et sœurs. Je poursuis un tout petit peu. Il dit ceci, la deuxième partie du verset 21. Il dit, et un vase d'un usage vil. Au verset 22, et que dire ? Écoutez bien, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une petite patience, avec une grande patience. La Bible nous dit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il use envers nous afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu use de grâce. Pour quelle raison ? Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes, il sait que tu as un vase fragile. Un vase qui bien souvent se laisse remplir parce qu'il est impur. Il le sait ça. Et s'il ne t'a pas encore brisé, c'est sa patience, c'est sa bonté, c'est son amour, c'est sa miséricorde et c'est surtout sa grâce. Il travaille, il patiente. Il ne veut pas briser le vase que tu es, mais il veut changer l'intérieur. Il veut transformer le cœur. Il veut mettre quelque chose de bon afin que ce qu'il sort de ta bouche ne soit pas des paroles méchantes, des paroles sales. Il veut que ce qui sort de ta bouche, que ce soit des paroles qui fassent du bien. Jésus a pu le dire, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui sauve l'homme, c'est ce qui en sort. Et quand le vase qu'on est s'est laissé transformer, régénérer, purifier par le sang de Jésus et travailler par les mains divines de Dieu, eh bien je peux vous dire, ce vase-là, que tu es, que je suis, tôt ou tard, Dieu va faire en sorte que ce qu'il en sort soit des choses qui lui plaisent. C'est un travail de longue haleine. Le potier, c'est quelqu'un qui est patient. Ce n'est pas en moins de deux qui fabrique un vase. C'est tout un art. C'est un artiste. Et Dieu est un artiste. Dieu, quand il fait les choses, il le fait pour que celui qui ne le connaisse pas, quand il nous regarde, il dit, il fait ça. Et lui, jamais j'aurais pensé qu'il serait changé. Elle, mais quand elle ouvrait la bouche, c'était toujours pour critiquer. Et là, c'est fini. Il n'y a que Dieu qui peut faire une œuvre comme ça. Mais il faut encore que le vase que nous sommes, on soit malléable, on soit docile et on se laisse faire. Israël, dans le désert, a manifesté de la rébellion. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le désir de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans le désert depuis des mois et des années. Ce n'est pas le désir de Dieu à la base. Mais c'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rebellés. Vous avez raidi vos coups. Et le Seigneur le dit, celui qui raidit son cou, qui mérite d'être repris, qui et sera brisé sans entendement. Job est un vase qui a été brisé par Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'épreuve ? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a demeuré dans la foi, frères et sœurs. Et dans l'épreuve, il est resté la tête haute. Et Dieu a travaillé ce vase jusqu'à ce que ce vase, il en ait fait quelque chose de glorieux. Puisque tout ce qu'il avait perdu, Dieu a redonné à ce vase une beauté, une richesse, plus qu'il n'en avait au début. Frères et sœurs, spirituellement, Dieu veut t'enrichir. Il ne veut plus que tu restes toujours sur le béaba. Il veut t'emmener à grandir. Il veut te servir un mets succulent, mais aussi solide, pour que tu deviennes une femme de Dieu, un homme de Dieu, qui ne se laisse pas, on va dire, influencer, ni applaudir, ni accepter des choses qui n'ont rien à voir avec l'Écriture. Ça, c'est un homme, c'est une femme de Dieu. Dieu veut nous emmener à devenir des hommes et des femmes. Qu'on arrête d'exposer nos vies, nos cœurs à ce qui n'est pas de Dieu, à tout ce que le monde nous propose, le monde évangélique, j'entends. Avec les nouveautés, Dieu veut que ce vase que nous sommes, il a dit, il a fait habiter cette grande puissance afin que la gloire lui soit donnée en retour. Vous dites amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu et gloire à mon Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au verset 23. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Oui. Au verset 23. Et s'il a voulu faire connaître, quoi ? La richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Dieu a tourné le dos à Israël, son peuple. Et il s'est tourné vers nous, les païens. Nous qui n'étions pas juifs, Dieu s'est tourné vers nous pour nous faire grâce et miséricorde. Et il nous avertit, il nous dit, si on s'enorgueillit au détriment de ceux qui ont été rejetés pour un temps, nous aussi, on n'est pas à l'abri du brisement. C'est pour cela qu'il faut que nous ayons la crainte de Dieu et que nous ne soyons pas méprisants. Et la Bible nous dit de prier pour Israël, prier pour les Juifs. Vous m'entendez ? On n'est pas Juifs, mais on occupe la place que les Juifs devaient occuper. Normalement, c'est eux qui auraient dû évangéliser le monde. Mais Dieu s'est tourné vers nous et il nous a confié la mission à nous, l'Église mystérieuse, qui a pris naissance du côté de Jésus à la croix du calvaire. Nous avons une mission, frères et sœurs, c'est d'aller et de propager l'Évangile, de dire au monde que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Elle n'est pas appelée à rester assis. Dieu a dit à Jérémie, lève-toi. Dieu a dit à Jonas, lève-toi. Et quand l'Église se lève, ce n'est pas pour faire ce qu'elle veut, mais pour faire ce que Dieu veut. Jonas s'est levé, il a fait ce que lui voulait faire, mais pas ce que Dieu voulait. C'est un vase rebelle. Pourquoi résistes-tu à ce que Dieu veut faire ? Pourquoi prends-tu le chemin contraire à ce que Dieu t'a dit ? Dieu t'a dit, va à droite. Pourquoi tu vas à gauche, mon frère, ma sœur ? Dieu t'a dit de rester tranquille. Pourquoi tu t'agites, mon frère, ma sœur ? Quand il te dit que c'est moi qui va régler la situation, ne t'agite pas. Reste tranquille. C'est dans le calme et la confiance que sera ton repos, ta force. Ne bouge pas. Même si tout bouge autour de toi, S'il te dit ne bouge pas, ne bouge pas. C'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main, il va le faire. Amen, mon frère. Alors, que Dieu te donne de la tempérance. Que l'épreuve que dans laquelle tu es produise en toi la patience et t'emmène à attendre comme le divin jardinier qui a semé et qui l'attend. Il attend de voir le grain devenir une petite plante qui sort de la terre et commence à espérer, dire ah, merci Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, bientôt, très bientôt, le Seigneur te répondra. Il viendra à ton secours. Tu n'auras plus à rougir. Tu n'auras plus à te cacher. Tu n'auras plus à te taire au sein de son peuple. Tu vas élever la voix pour le bénir. Par à Dieu. Peut-être certains ne te comprendront pas parce qu'ils disent, mais pourquoi elle pleure? Pourquoi il pleure? Dieu connaît ton cœur. Il sait que ce sont des larmes de reconnaissance, d'action de grâce. Nous bénissons Dieu ce soir, frères et sœurs, pour sa parole. Mon frère, tu es un vase choisi par Dieu pour une œuvre bien précise. Comme Moïse, Dieu te brisera. Il t'emmènera dans le désert parce que l'œuvre qu'il a à faire avec toi s'est manifestée, va se manifester avec une grande puissance. Laisse-le faire. Laisse-le te dépouiller de toi-même. Et laisse-le façonner ton cœur pour que le divin caractère de Jésus se forme en toi. Pour que là où tu aurais pu lever la voix, tu te tais. Là où tu aurais pu dire « Ah non, ce n'est pas possible !» Tu te restes tranquille. Que tu laisses Dieu faire pour toi. Tu ne cherches pas à te faire justice par toi-même, mais tu laisses celui à qui a dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution. » Laisse Dieu faire. Il agira certainement, laisse-le faire. Gloire à Dieu. Moïse a appris à la cour de Pharaon beaucoup de choses, mais Dieu l'a dépouillé pour faire de lui ce qu'il a été, un leader, entre guillemets, un sauveur. C'est lui que Dieu a utilisé pour sortir son peuple d'Égypte sous le joug de fer de Pharaon. C'est quand tu es faible, mon frère, ma sœur, c'est alors que tu es fort. C'est Paul qui le dit ceci. N'essaye pas d'échapper à ses mains. Ce sont les mains les plus sûres qui existent au monde. Ce sont les mains de Jésus. Et c'est là que Dieu nous a placés, dans le creux de sa main. Ça veut dire qu'il faut que nous laissons le Seigneur travailler. David, le psalmiste, David a dit « Où irai-je loin de ta face ? Je monte aux cieux, tu y es. Je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Je vais au bout du monde, je tombe sur toi. » C'est-à-dire, quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, si la personne essaie de se sauver comme Moïse, derrière le troupeau, pendant qu'il fait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, Dieu l'appelle. Voyez, tu cherches à fuir, mais Dieu se trouve partout sur la terre. Tu vas toujours le rencontrer, que ce soit là-bas, ailleurs, ne fuis pas. Accepte qu'il te prend et qu'il te met sur le tour. Accepte, ça va faire mal, qu'il travaille ta vie, qu'il façonne ta vie à sa guise. Si quelqu'un t'a promis une vie chrétienne merveilleuse, cette personne t'a trompé. Elle est belle en Jésus, la vie chrétienne, mais il y a aussi un prix à payer. Et ce prix-là, c'est quand les chrétiens se trouvent au pied de la croix et qu'ils doivent se laisser crucifier avec Jésus, là ils disent « Non, je ne veux pas mourir ». Ils préfèrent garder leur vie. au lieu d'accepter de mourir avec Jésus à la croix du calvaire. C'est là que la vraie vie commence et c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Alors accepte de mourir. Accepte que les mains du divin potier te façonnent, te travaillent, jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il avait prévu pour ta vie. Pourquoi ? Parce que Dieu tient dans sa main un plan bien précis pour chacune de nos vies. Nous pouvons aller saisir, prendre connaissance de ce plan, comme nous pouvons fuir et passer à côté. On ne peut pas bénéficier de ce plan si nous ne mourons pas à nous-mêmes. Ce n'est pas un plan qui doit être dans la main de quelqu'un qui n'est pas régénéré et qui n'accepte pas que Dieu le façonne ou la façonne. Ce plan, c'est un plan qui est saint, un plan béni. Le Seigneur dit, les projets que j'ai dans ce plan, c'est des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir pour toi, frères et sœurs, mais quelque chose d'extraordinaire, que même ta pensée là, tu ne peux pas réaliser ce que Dieu a pour toi. Ce que tu connais de lui aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'il veut faire avec toi et à travers toi. Inclinons nos fronts quelques instants.